Alors, vous avez peut-être entendu parler de la ville de Jéricho et de la prise de la ville de Jéricho. C'est une histoire qu'on raconte parfois aux enfants, à nos enfants. La ville de Jéricho, en fait, c'était la première ville qui était devant, sur le chemin du peuple d'Israël, quand ils ont conquis le pays promis. Alors, on se situe en quelle époque ? On se situe en moins 1400 avant Jésus-Christ. 40 ans plus tôt, Moïse avait fait sortir le peuple d'Égypte. Et c'est maintenant Josué, son successeur, qui s'apprête à conduire le peuple dans cette conquête militaire pour prendre possession du pays que Dieu leur a donné. Et donc il y a 15 jours, j'ai fait une présentation du livre de Josué où on a parlé de tout cela. C'est vrai que nous étudions en ce moment en église le livre de Josué, donc chacun est invité à le lire chez lui, et puis j'ai le privilège aussi d'apporter quelques enseignements sur certains de ces chapitres. Alors ce matin, nous n'allons pas parler de la prise de Jéricho, qui se trouve au chapitre 6, mais nous allons parler d'un événement qui s'est situé quelques jours plus tôt, et en particulier, on parlera d'un événement, mais surtout d'une personne que je nous invite à découvrir ou à redécouvrir ensemble. J'ai mentionné ici la personne de Rahab. Et nous allons lire, si vous le voulez bien, donc dans le livre de Josué, le chapitre 2, les versets 1 à 21. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où l'on allait fermer la porte à la tombée de la nuit, ils sont ressortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à la sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage. Notre esprit est abattu devant vous. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous les autres, et tous les leurs, pardon, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne vous divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait, c'est sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes-là lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, toute ta famille. Si l'un d'eux passe par la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit fait comme vous l'avez dit. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Alors je voulais tout d'abord rappeler, remontrer la carte que j'avais montrée la dernière fois. Le peuple d'Israël est... Mince, je me trompe. Le peuple d'Israël est ici, il traversera le Jourdain, et Jéricho est juste de l'autre côté. Voilà. Donc c'était pas très loin. C'était pas très loin. On va, voilà, sinon je vais... Donc on va voir dans un premier temps, la première partie du récit. On voit que Rahab prend une position inattendue. C'est la première partie, une prise de position inattendue. Et on va voir dans un premier temps pourquoi est-ce que finalement les espions sont arrivés chez Rahab. Parce que c'était un endroit stratégique. Moïse l'avait fait 40 ans plus tôt, il avait envoyé des espions en Israël. Josué, à nouveau, lui, envoie deux espions. Il le fait secrètement, il n'en envoie que deux. C'était une pratique courante à l'époque, quand on faisait la guerre, on envoyait des espions pour observer, pour mettre en place, quelque part, le plan d'attaque. Et on voit dans cette démarche de Josué quelque chose d'intéressant, parce que finalement, compter sur Dieu ne signifie pas ne pas réfléchir avant d'agir. Dieu avait appelé son peuple à compter sur lui. Dieu avait dit, je vais donner ce pays. Mais, voilà, on voit que Josué, lui, prépare les choses en chef, en bon chef militaire. Ils arrivent donc à Jéricho. Nos deux espions entrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab. Drôle d'endroit. Drôle d'endroit, me direz-vous. Mais finalement, en y réfléchissant, c'est pas si drôle que ça. C'est pas si bizarre. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'espionnage, ni du contre-espionnage. Mais on peut facilement deviner les règles de base. Il faut aller glaner des informations sans se faire repérer. Il faut prévoir une issue de secours au cas où ça se passe mal. Et puis après, la dernière chose, c'est à la grâce de Dieu. Hein. Fais ce que tu dois et advienne que pourra. Parce que c'est plein d'inconnus, le métier d'espion. Et le choix que font ces deux hommes, il correspond bien à ces critères. La maison d'une prostituée était un lieu de passage, facile d'entrer, de sortir. Certains auteurs des premiers siècles pensent même que Rahab tenait aussi une auberge. Parce que le mot aubergiste et prostituée, c'était deux mots qui étaient assez synonymes. Alors si c'était une auberge, c'était encore un endroit encore plus facile pour entrer sortir de façon incognito. Et puis, le texte nous apprend que la maison était sur le bord de muraille. Et ils ont effectivement fui par là. Plan de secours. Et on voit aussi qu'au travers de ce récit, que Rahab était la bonne personne auprès de qui il fallait s'adresser et que c'est Dieu qui les a conduits vers cette personne. Alors leur plan, finalement, il n'était pas si mauvais que ça. Mais on voit que nos deux espions sont vite découverts. On ne sait pas comment. En tout cas, la chose se sait, la chose remonte jusqu'au roi, et le roi envoie des émissaires pour aller les chercher chez Rahab, pour les arrêter. Comment vont-ils s'en sortir? Et c'est là que, à la télévision, il y a une page de publicité. Mais nous n'avons pas de publicité à faire ce matin. La femme, alors nous voyons par contre la réaction, l'attitude de Rahab, cette femme chez qui ils étaient. Et c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Parce que est-ce que nous réalisons qu'elle risque sa vie pour sauver celle de deux hommes qu'elle ne connaît pas? Moi je trouve ça assez stupéfiant quand même. Elle se désolidarise de son peuple, quelque part elle passe à l'ennemi, tout en sachant que cela la met en danger, parce que si c'est découvert, je pense qu'elle est destinée à mourir. Mais elle fait cela pour sauver deux hommes qui appartiennent au peuple de Dieu. Elle fait cela parce qu'elle sait que ce sont des gens qui sont bénis par Dieu. Et moi je trouve sa prise de position comme étant très courageuse et comme finalement assez inattendue. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour éloigner le danger qui pèse sur nos deux espions, elle va les cacher sur son toit, et puis elle va essayer de faire partir les émissaires le plus loin possible pour que le danger s'échappe. Son subterfuge nous dérange peut-être certainement un petit peu. Car finalement, c'est un mensonge. C'est par un mensonge qu'elle va sauver la vie de nos deux espions. Que faut-il en penser ? Serait-il permis de mentir pour se sortir de situations délicates ? Alors, je vais faire référence au culte qu'on a eu en famille il y a quelques semaines. On a parlé du mensonge. Et rappeler rapidement que Dieu est un Dieu de vérité, que c'est Satan qui est menteur, père du mensonge, et qu'en tant que chrétiens, nous sommes invités à renoncer au mensonge et à parler selon la vérité à notre prochain. Éphésiens 4, 25. Comment comprendre ce mensonge de Rahab ? Tout d'abord, elle était cananéenne, c'est-à-dire qu'elle ne connaissait rien au Dieu de la Bible, au Dieu du peuple et juif. Elle était cananéenne. Nous savons pour que les Cananéens, à cette époque-là, leur moralité était sûrement catastrophique, puisque le peuple a dû attendre 400 ans pour conquérir ce pays, parce que la Genèse souligne que leur iniquité n'était pas encore à leur comble. Donc si le peuple hébreu arrive là maintenant, c'est que l'iniquité qui était présente dans le peuple cananéen était à son comble. Alors un petit mensonge, ça devait être assez facile pour elle à cette époque-là. Et puis on peut essayer de trouver d'autres raisons pourquoi elle a menti. C'est vrai qu'il y avait aussi le principe d'hospitalité qui était très présent, qui est toujours très présent d'ailleurs dans ces pays. Et quelque part, pour protéger un hôte sous son toit, eh bien, on est prêt à utiliser des mensonges qui permettraient de respecter cette règle de l'hospitalité. En tout cas, le fait que son mensonge est une issue positive ne veut pas dire qu'il était justifié. Parce qu'elle aurait sûrement, on aurait peut-être pu arriver à une issue positive avec d'autres choses. Et il ne faut surtout pas croire que la fin justifie les moyens. Soyons assurés que la Bible ne justifie jamais un mensonge de la part d'un croyant. Donc, ce n'est pas un exemple à suivre. Mais ce qui est bien dans la Bible, c'est qu'il y a des personnages qui sont des exemples à suivre et puis des personnages qui sont ou des choses à faire qui ne sont pas à suivre. On a exemple et contre-exemple. Mais revenons à notre histoire. Donc les émissaires du roi sont partis à leur recherche, et ensuite Rahab monte sur le toit pour les rejoindre et pour discuter avec eux. Et là on arrive au point central de ce chapitre, qui est la confession de foi de Rahab. Et ça là, le cœur de l'histoire. Déjà par son geste, Rahab a exprimé un certain attachement à Dieu ou à son peuple, en tout cas à ses espions. Mais nous découvrons dans les versets qui suivent, les versets 8 à 11, ce qui l'a véritablement poussé à agir ainsi. Une confession de foi finalement surprenante pour quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu et qui ne connaît pratiquement rien, certainement, du Dieu de la Bible. Alors, les versets 8 à 11 sont structurés d'une manière un peu particulière, voilà, que j'ai affichée ici. C'est ce qu'on appelle une structure en chiasme, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on retrouve au début et à la fin, au milieu, et puis un élément central. Et qu'est-ce qu'on trouve au centre ? Et ce qui est central dans le texte, c'est ce qui est central dans le sens du texte. C'est « Nous avons appris ». Comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous la mer des roseaux. Comment vous avez traité le roi des Amoréens, Sion et Og, que vous avez exterminés. Ce qui est au centre de sa confession de foi, c'est ce que l'Éternel a fait. Nous avons appris. Et on voit qu'il y a deux réactions, finalement, à ce que Dieu fait. Il y a la terreur, la perte de courage, l'abattement du peuple. Et il y a la position de Rahab qui est « Je le sais, l'Éternel vous a donné le pays. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Deux réactions opposées. Ce sont les interventions de Dieu en faveur de son peuple qui ont d'une part motivé le découragement des Cananéens, mais qui ont aussi suscité la foi de Rahab en Dieu. Et l'apôtre Paul nous le rappelle que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Nous avons appris. Pour nous, aujourd'hui, la foi repose sur des faits avérés, la mort, la résurrection de Jésus, sur ce que nous apprenons de Dieu par sa parole, sur ce que nous ont transmis les croyants qui nous ont précédés, et sur notre propre relation personnelle avec Dieu. On va revenir au plan. Donc le cœur de l'histoire, c'est ce que Dieu a fait et qui va susciter la foi chez Rahab. Et cette foi, finalement, elle concerne aussi son avenir. On voit qu'elle a une vision, une compréhension des choses, cette femme, une clairvoyance qui comprend que ce qui est en train d'arriver, c'est la fin de son peuple, c'est la destruction de son peuple. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alors, moi, je propose qu'on regarde rapidement les éléments de ce que Rahab exprime, de ce qu'elle a compris de qui est Dieu réellement. Elle croit en un Dieu qui est souverain et tout-puissant. Et pour elle, ce que Dieu a décidé concernant Jéricho, sa destruction, c'est quelque chose qui est irrévocable, que rien ne peut entraver le plan de Dieu. Elle croit aussi, c'est exprimé dans le verset 11, que Dieu, l'Éternel, est le seul Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu de ce peuple, celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Par là, elle reconnaît que les dieux cananéens qu'elle adorait jusque-là ne sont que des idoles, ne sont que des idoles vides de sens. Elle reconnaît que c'est le Dieu du peuple d'Israël qui est le seul vrai Dieu. Elle croit aussi en un Dieu, dans le fait qu'il est à la fois saint et juste. Elle sait que son peuple est perdu. Elle sait qu'elle-même, elle est condamnée à périr avec ses concitoyens. Mais elle sait aussi que la seule issue pour elle, c'est d'implorer la grâce auprès des deux espions hébreux. Implorer la grâce de Dieu. Elle croit donc en un Dieu qui est miséricordieux. Et elle le déclare que c'est un Dieu qui bénit le peuple. Hein, mais c'est votre Dieu, c'est lui qui vous donne, etc. Et le fait pour elle de se désolidariser de son peuple et de se tourner vers l'Éternel va lui permettre aussi de bénéficier des bénédictions que Dieu a en réserve pour ceux qui sont son peuple. Je trouve que c'est intéressant tout ce qu'on trouve dans cette confession de foi. Et donc, après avoir confessé cette foi, Rahab va formuler une demande qui est assez inattendue. On va voir, c'est le point suivant. Donc, j'ai parlé de sa foi qui concerne aussi son avenir. Et là, on voit que son salut ne tient qu'à un fil. Et la première chose qu'elle fait avec les deux espions, c'est un compte. Quelque part, elle signe un contrat de confiance. On n'est pas chez Darty, mais... Elle va formuler une demande qui est assez inattendue, mais qui est osée. Et ce matin, Audrey nous a invités à oser les choses. Elle a osé. Mais finalement, quand on y réfléchit, ça découle assez naturellement de la foi qu'elle vient d'exprimer. Elle a sauvé la vie des deux espions en les cachant. Et ça, c'était l'expression, la première expression de sa foi dans le Dieu d'Israël. Elle était aussi certaine du sort réservé aux habitants de Jéricho, et en sollicitant le salut à son tour, pour elle et sa famille, en fait, elle se base sur ce qu'elle a déjà accompli vis-à-vis de ces hommes. Elle joue sur le fait que ces deux hommes ont quelque part une dette envers elle. Elle doit savoir très certainement que ce ne sont pas eux les grands décideurs qui vont décider de son sort, mais elle a confiance dans l'intégrité de ces hommes et dans les valeurs morales de ce peuple à qui Dieu a promis la victoire. Et donc il va s'établir un contrat de confiance qu'on ne va pas relire. Mais pour elle, pour être sauvée, il faut qu'elle remplisse une condition. Il faut qu'elle déjà qu'elle les aide à partir, et puis surtout qu'elle garde le silence sur leur mission et sur le fait qu'ils aient été présents. Et ensuite, il fallait aussi qu'elle se conforme aux instructions, c'est-à-dire qu'elle se situe dans la maison, qu'elle place le fil rouge, qu'elle invite sa famille dans la maison et que ce n'était que ceux qui seraient rassemblés dans la maison qui seraient sauvés. Et donc, quand les espions partent de chez elle, on pourrait dire qu'elle est sauvée en espérance. Mais elle sait que son sort est entre les mains de ces deux hommes qu'elle a laissés partir, qui finalement sont les représentants d'un peuple qui sont eux-mêmes guidés par Dieu. Et que finalement, son sort à elle est entre les mains de Dieu. Le fil rouge. Ouais, encore une fois. Le fil rouge, on parle de fil rouge pour la prière pour l'église persécutée. Mais finalement, à quoi tient son salut ? À un cordon rouge accroché à sa fenêtre. C'est bien maigre. Et donc, d'où l'expression, enfin je ne sais pas si elle vient de là, mais sa vie ne tient qu'à un fil. Ça prend tout son sens. On pourrait se demander si la couleur rouge est fortuite. Personnellement, il y a quand même pas mal d'indices qui pourraient nous dire que ça rappelle d'autres choses. Le fait d'accrocher quelque chose, un signe visible à l'extérieur qui permet d'être épargné. 40 ans plus tôt, Moïse, à la sortie d'Égypte, Dieu avait demandé à ce que tout le peuple d'Israël mette sur les linteaux de la porte du sang d'agneau et que quand l'exterminateur passerait, les premiers-nés seront épargnés là où les linteaux étaient couverts du sang de l'agneau pascal. De la même manière, Rahab et sa famille seront épargnés par la présence de ce fil rouge. Quel est à nous notre fil rouge qui nous sauve du jugement de Dieu sur le péché de nos vies ? Car finalement, tant qu'on n'a pas reconnu nos péchés, tant que nous n'avons pas compris notre besoin d'être sauvés du jugement de Dieu, on se trouve comme étant les habitants de Jéricho. On est dans la même situation que les habitants de Jéricho, c'est-à-dire destinés à périr. Alors nous avons lu ce matin Éphésiens 2, et je voudrais qu'on le relise. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément à la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il ajoute plus loin, par le moyen de la foi. Voilà notre fil rouge. Le sang de Jésus versé sur la croix de Golgotha. Et finalement, c'est par la même foi que celle de Rahab que nous pouvons être aujourd'hui sauvés du jugement de Dieu sur nos péchés. Alors, l'objet de la foi est différent, mais c'est la foi en Dieu et la foi dans l'appel au secours de nous sauver par grâce. Les moyens de salut physique à l'époque pour Rahab, c'était donc d'être épargné. Mais nous, spirituellement, les moyens que Dieu nous met à notre disposition, c'est la croix de Golgotha. Rahab est une rescapée. Le chapitre 6 nous mentionne la suite de l'histoire. Les jeunes espions entrèrent chez Rahab. Ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de la famille, les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers de Josué et envoyé que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Ça, c'est ce qu'on trouve au chapitre 6, versets 23 et 25. Qu'est-elle devenue par la suite, Rahab ? On sait un certain nombre de choses sur elle, enfin pas beaucoup, mais on la retrouve dans la généalogie de Jésus. Elle a épousé Salmon, qui a enfanté Boaz, qui a eu comme fils Obed, qui a eu comme fils Ésaïe, qui a eu comme fils David, le roi David. Donc, elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. C'est bien. Rahab est une rescapée. On pourrait se poser la question, et nous ? Partageons-nous la foi de Rahab ? On va reprendre les différents éléments que j'ai énumérés tout à l'heure. Elle a cru en un Dieu souverain et tout-puissant qui doit être pris au sérieux. Prenons-nous Dieu au sérieux. Elle a cru que l'Éternel était le seul Dieu de l'univers et que lui seul méritait d'être honoré par sa vie. Est-ce aussi notre cas ? Elle a cru en un Dieu qui était saint et juste, qui condamne à la fois le péché mais qui sauve le pécheur quand il renonce à son péché et qu'il implore la grâce. Est-ce que nous aussi, nous sommes placés sous la grâce de Dieu manifestée à la croix en Jésus-Christ ? Elle a cru en un Dieu miséricordieux qui bénit richement ceux qui sont son peuple, ceux qui ont accepté l'autorité de Dieu sur leur vie. Et puis elle a cru dans ce contrat qu'elle a fait avec les espions, elle a cru leur parole, la parole de ceux qui étaient quelque part représentants de Dieu et qui lui proposaient le moyen d'être sauvés. Nous sommes invités à être des Rahab, non dans sa vie d'avant, parce que ça c'était avant, mais dans sa démarche de foi. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle n'a pas cherché à se conformer à ceux avec qui elle vivait. Elle s'est passée en complet décalage, mais elle a compris que c'était auprès de Dieu et de Dieu seul que sa vie avait un sens et un avenir. Et ça m'a fait penser à ce texte de Romains qui dit que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Romains chapitre 10, verset 13. Alors on est invité comme Rahab à faire appel à Dieu et à entrer pleinement dans cette vie qu'il nous propose, dans cette vie dans laquelle il nous promet sa présence, une présence vivante, une présence rayonnante, une vie dans laquelle il nous invite à nous soumettre à sa volonté que nous devons reconnaître comme bonne, agréable et parfaite. Je cite ici Romains chapitre 12. Soyons des Rahab. Et puis nous pouvons également être des transmetteurs de cette foi pour que d'autres Rahab puissent se tourner vers Dieu. Et la suite du texte de Romains chapitre 10 nous dit ceci. Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors nous pouvons être à la fois des Rahab et des porteurs de bonnes nouvelles pour que d'autres Rahab puissent aussi recevoir et entrer dans cette foi. Je vous invite à la prière.